vous suit.
Voici les titres du journal.
Les ambulances claires basées à Monté ont révisé en ce début d'année leurs algorithmes d'intervention. De quoi s'agit-il exactement? On vous explique tout dans ce journal. Maladie fongique de la vigne, le mildiou a causé des dégâts historiques en 2021. Quels enseignements et quelles perspectives pour 2022? Réponse dans quelques instants. Dans l'ensemble, la criminalité dans le canton de Vaud est restée stable en 2021. Le nombre de cas de cybercriminalité, en revanche, a pris l'ascenseur, plus 22%. Et une fois la machine lancée, il est difficile de l'arrêter. L'équipe de Suisse de football affrontera pour la première fois le Kosovo ce soir en match amical à Zurich. Et en basket, le BBC 3 Torrent ne s'est pas rassuré à 2 semaines de la finale de la Coupe de Suisse.
C'est un ciel voilé qui nous attend pour cet après-midi. Pour demain, le temps sera très nuageux avec des précipitations intermittentes. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Thierry Nicolet. Bonjour Thierry.
Bonjour Axel et bonjour à tous. En janvier dernier, les ambulances claires ont révisé leurs algorithmes d'intervention. Cela signifie que l'entreprise basée à Monté a revu les gestes et les médicaments délégués par un médecin conseil. Elle doit le faire tous les 2 ans, comme les autres services d'ambulance valaisans. Le service en a également profité pour améliorer les points qui le nécessitaient, comme l'explique le responsable de ces algorithmes d'intervention, Florian Monard, au micro de Valérie Blom.
Ces algorithmes, en fait, ils sont mis à jour régulièrement. Nous, notre but, c'est d'assurer une prise en charge de qualité aux patients. Donc pour ça, on va se baser sur, de un, les standards internationaux. Qu'est-ce que les grandes études internationales? Qu'est-ce que les universités? Qu'est-ce que les conseils médicaux nous recommandent? Et puis avec ça, donc on a un suivi qui est quasi constant de toutes les nouveautés qui sortent, ce qui nous permet d'assurer vraiment ces prises en charge de qualité. La médecine, c'est quelque chose qui est extrêmement évolutif. Ce qu'on fait hier sera peut-être faux demain, et l'inverse. C'est vraiment quelque chose d'évolutif, donc ça nous demande à nous de vraiment rester à jour sur nos connaissances, sur nos compétences et sur les directives qui sortent. On va aussi faire des mises à jour selon ce qu'on observe, nous, ce que les ambulanciers sur le terrain nous rapportent. On fait ce qu'on appelle un monitoring, on va suivre toutes nos autonomies. Et puis, si je prends l'exemple de l'antalgie, donc des traitements de la douleur, on a un panel de médicaments qui nous permet en autonomie de traiter les douleurs. Et notre but, c'est que notre patient soit confortable, que quand on arrive à destination ou quand on doit faire un relevage, quand on doit poser une attelle parce qu'il y a une jambe qui est cassée ou un bras qui est cassé, que le patient ne souffre pas le martyr et qu'il en fasse ça dans les meilleures conditions et puis que lui soit confortable.
Ce monitoring interne permet ainsi de réviser la prise en charge des patients et de revoir au besoin certains gestes ou certains médicaments en accord avec le médecin conseil. Des cafés citoyens sont mis sur pied pour parler du projet de fusion entre Colombey-Murat et Monté. L'objectif est de répondre aux dernières interrogations de la population avant la votation communale du 15 mai. 6 rencontres sont organisées entre le 31 mars et le 13 avril dans des établissements publics. Les présidents des 2 municipalités seront chaque fois accompagnés d'un président d'une commune ayant vécu une fusion ces dernières années. Par ailleurs, les médias régionaux proposeront également des débats. Radio Chablais en animera un le 7 avril à 19h au Pause Café à Monté.
Le canton du Valais a fait le point hier matin sur le mildiou.
Il a présenté devant la presse le bilan et les enseignements de l'année 2021, durant laquelle cette maladie fongique de la vigne a causé des dégâts historiques dans le vignoble. On le rappelle, l'an dernier, la vendange a été la plus faible jamais enregistrée jusqu'ici en Valais. Comment expliquer de tels ravages? La réponse de Pierre-Henri Dubuis, collaborateur scientifique à l'Agroscope de Changin.
En fait, ce qu'on voit, c'est que le mildiou, il a besoin de ces conditions humides, et quand les conditions sont favorables, il est très difficile à maîtriser, en particulier quand il se met en place dans une parcelle. Là, ça devient très compliqué pour le producteur d'arriver à protéger sa récolte. Alors pour nous, de la recherche, c'est rien de très nouveau, mais c'est juste ces conditions qui étaient très particulières, et en particulier en vallée où les gens ne sont pas vraiment habitués à avoir autant de précipitations en été, c'était vraiment difficile à gérer. Alors ça, c'est des phénomènes de météo. On peut parler de réchauffement climatique, de changement climatique, avec des épisodes comme ça, justement, de pluie plus intense, aussi avec des précipitations plus fortes. Et puis surtout, c'était assez exceptionnel d'avoir autant de jours de pluie sur un été, en fait.
Les viticulteurs valaisans n'ont pas l'habitude de gérer ce mildiou dans un canton habituellement sec. Et afin de lutter plus efficacement contre lui, le canton a donc pointé du doigt 2 facteurs à prendre en compte. Bertrand Nominé, responsable du secteur technique de production à l'Office de la viticulture.
On va dire que le premier, c'est le facteur cépage. On sait que le merlot est très sensible à l'humidité, au mildiou. Le deuxième facteur, après, c'est cette capacité à rentrer facilement ou non dans une parcelle. Une parcelle sensible, proche d'une rivière, dans une combe, mettra beaucoup plus de temps à sécher. On pourra donc difficilement re-rentrer dans la parcelle pour traiter. Et il suffit qu'il y ait un petit peu de rosée sur cette parcelle pour continuer à augmenter cette pression mildiou.
Pourquoi on a constaté une telle différence en 2021 entre la rive droite et la rive gauche?
Alors, on s'est posé beaucoup de questions, même nous, en tant que conseiller technique, on a été surpris. On pense que la rive gauche a eu son stade de sensibilité, donc autour de la fleur et début de formation des grappes, qui est arrivé après ou avant les fortes pluies de juillet. C'est ça qui a fait la différence.
Les viticulteurs doivent maintenant envisager une autre façon de gérer ces parcelles sensibles, selon Bertrand Nominet, qui rappelle également que l'Office de la viticulture est là pour les soutenir via des plateformes d'échange. Un sujet préparé par nos confrères de Rhône FM. La thèse du suicide collectif est privilégiée dans le drame familial à Montreux. Menée à la suite des événements survenus le 24 mars dernier, l'enquête permet d'écarter l'intervention d'un tiers. Elle laisse supposer que toutes les victimes ont sauté du balcon les unes après les autres. La famille vivait retirée de la société et devait craindre que l'autorité vienne s'immiscer dans leur mode de vie. Le fils est lui toujours hospitalisé, il est actuellement dans le coma.
En matière de criminalité, le bilan vaudois est plutôt positif pour 2021.
C'est ce qui ressort des chiffres présentés hier par les autorités. Il existe toutefois quelques disparités. Les violences conjugales ont par exemple légèrement reculé. En revanche, la cybercriminalité a grimpé en flèche avec une augmentation de passé 20% du nombre de cas. En tête, les usurpations d'identité et la non-livraison d'articles commandés en ligne. Et c'est un vrai casse-tête pour les 11 inspecteurs qui se consacrent à ces délits. Explication du commandant de la police cantonale, Jacques Antenen.
D'une manière générale, le problème de la cybercriminalité, c'est qu'une fois que l'infraction est commise, il devient extrêmement difficile d'identifier les auteurs, de mettre en route une poursuite pénale et surtout de retrouver le butin. Lorsque le clic fatal s'est produit, il faut savoir que les chances sont très réduites de pouvoir remettre la main sur ce qui a été perdu. Pourquoi ? Parce que très souvent, cela se situe à un autre endroit de la planète, que le jeu des commissions rogatoires internationales rend très compliqué le développement de ces enquêtes. Et l'accent doit véritablement être mis encore plus que jamais dans le domaine de la prévention de ce domaine-là.
Le patron de la police vaudoise a précisé que dans de nombreuses situations, les arnaques viennent d'Afrique, en particulier pour les arnaques liées aux fausses annonces ou aux faux sentiments amoureux. Un haut fonctionnaire policier du Bénin avait d'ailleurs été invité à Lausanne pour discuter de cette problématique. Un sujet réalisé par Quentin Frey. L'aéroport de Genève est resté dans les chiffres rouges l'an dernier, mais a réduit sa perte d'un tiers par rapport à 2020. Si la fréquentation s'est sensiblement redressée par rapport à l'exercice précédent, les chiffres restent très inférieurs à ceux d'avant la pandémie, a indiqué l'aéroport aujourd'hui dans un communiqué. L'exploitant du tarmac de Cointrin a bouclé l'exercice 2021 sur une perte de 88,9 millions de francs contre 129,5 en 2020. Le chiffre d'affaires a lui progressé de 9,3%. Membre de l'espace de sécurité européenne Schengen depuis 2005, la Suisse est appelée, comme les autres États, à renforcer le dispositif Frontex. Il s'agit de l'Agence européenne des gardes-frontières et des gardes-côtes qui contrôle la migration et la sécurité aux frontières extérieures de l'Europe. Une majorité du Parlement fédéral soutient l'extension de Frontex, mais ce programme est combattu par un référendum des ONG qui accueille des migrants, appuyé par la gauche. Ce matin à Berne, une large coalition libérale, bourgeoise et économique est venue défendre le oui à Frontex lors de la votation du 15 mai, car rejeter Frontex, dit-elle, c'est la quasi-certitude d'être exclu de Schengen-Dublin. Et c'est donc la sécurité en Suisse qui est en jeu. Les Verts libéraux tiennent les rênes de la campagne. On écoute la présidente du groupe parlementaire Vert libéral, la zurichoise Tiana Moser.
Si on dit oui à Frontex, on dit aussi oui à Schengen. Et Schengen, c'est un accord très important pour la Suisse, en termes de sécurité migratoire, mais aussi économiquement. C'est clair qu'il y a eu des problèmes dans le passé avec Frontex, on accepte ça, mais c'est une situation très difficile pour les pays frontières de Schengen. Et maintenant, on doit aider à respecter les droits humains, on doit aider à faire les choses mieux. Et la Suisse, avec l'argent, mais aussi avec l'expertise, peut aider à améliorer les choses. On est dans le centre de l'Europe, on est dans le centre de l'espace Schengen, et on ne peut pas seulement profiter et dire on veut voyager librement, on veut tous les profits pour l'économie, mais on n'aide pas à résoudre les choses difficiles à la frontière parce qu'on a beaucoup de gens qui vont venir demander l'asile. On doit aider aussi, on doit prendre des responsabilités.
Des propos recueillis par notre correspondant à Berne, Serge Jubin. Les milieux économiques et du tourisme en particulier soutiennent Frontex. Une étude montre que si la Suisse est exclue de l'espace Schengen, le produit intérieur brut chutera de 3,7%, avec une perte équivalente à 1600 francs par personne et par an.
La Suisse veut contribuer à protéger le patrimoine culturel ukrainien.
L'Office fédéral de la culture met à disposition un montant de 750 000 francs à cette fin, a-t-il annoncé aujourd'hui. L'OFC souhaite aussi soutenir des musées et des institutions similaires en Suisse pour la garde en dépôt temporaire et la conservation de biens culturels menacés.
La Russie et l'Ukraine ont toutes deux des préoccupations légitimes.
C'est ce qu'a déclaré ce matin le président turc Recep Tayyip Erdogan en accueillant les délégations de négociateurs des deux pays à Istanbul, les appelant à mettre un terme à ce qu'il a appelé une tragédie. La Turquie avait déjà accueilli le 10 mars à Antalya la première rencontre entre les ministres des Affaires étrangères russes et ukrainiens. Une frappe russe a d'ailleurs touché ce matin le siège de l'administration régionale de Mykolaïv dans le sud de l'Ukraine. Un premier bilan fait état de 2 morts. La ville proche d'Odessa connaissait un répit dans les bombardements ces derniers jours. Selon le gouverneur de la région, les secours recherchent toujours 8 civils et 3 militaires sous les décombres.
Ukraine encore, le pays a annoncé une reprise des évacuations de civils via 3 couloirs humanitaires.
Et ce, après une journée de suspension par crainte de provocation russe. Des couloirs humanitaires sont d'ordinaire organisés quotidiennement à partir des villes les plus touchées par les combats, notamment Mariupol, pour permettre l'évacuation des civils. On passe en sport, en voile. La prochaine édition de la Coupe de l'Amérique aura lieu au large de Barcelone. Selon plusieurs médias espagnols, le Team New Zealand, tenant du titre, a renoncé à organiser la compétition à domicile en 2024. C'est la première fois dans l'histoire de l'épreuve, vieille de plus de 170 ans, qu'un tel scénario se produit. Une situation qui découle de l'échec des négociations avec les autorités néo-zélandaises. À l'occasion de la 37e édition de la prestigieuse Coupe de l'Amérique, Alinghi fera son grand retour. La région de Barcelone a été préférée à 3 autres candidatures, celles de Malaga, Cork et Jeddah.
En football, l'équipe de Suisse vivra une grande première ce soir à Zurich.
La Nati défiera le Kosovo, un adversaire qu'elle n'a encore jamais affronté. Sur la pelouse du Letzigrund à Zurich, les Helvètes disputeront un second match amical, 3 jours après leur défaite 2-1 en Angleterre. Et pour ce duel, plusieurs changements devraient être effectués. Si le capitaine Granit Xhaka vivra sa 100e sélection, il ne sera pas entouré par les mêmes coéquipiers que samedi à Wembley. Pour le coach national Murat Yakin, il est important de procéder à plusieurs remaniements à 8 mois de la Coupe du Monde au Qatar, qui plus est dans un match comme celui de ce soir.
On a livré un bon match, très intense contre l'Angleterre. Et avec cette nouvelle rencontre, il y a la possibilité de donner une chance à plusieurs autres joueurs avec la même stratégie qui consiste à essayer d'emmagasiner un maximum d'expérience collectivement dans l'ensemble de l'effectif. Plusieurs échéances approchent avec la Ligue des Nations et la Coupe du Monde. Nous voulons donc tenter de fonctionner encore mieux en tant qu'équipe. C'est pour ça qu'il est important d'offrir une chance à plusieurs autres joueurs.
Des propos recueillis par nos confrères de la RTS et traduits par Ludovic Turin. Le coup d'envoi de cette rencontre amicale entre la Suisse et le Kosovo sera donné à 18h à Zurich.
En basketball, la préparation de la finale de la Coupe de Suisse a mal commencé pour le BBC Trois Torrents.
Les joueuses Chorg ont perdu la répétition générale face à Elphick Fribourg samedi à la salle du Reposieux à Montet. 2 semaines avant de retrouver ce même adversaire en finale, les Chablaisiennes ont été corrigées sur leur parquet. Elles se sont lourdement inclinées 82 à 49 devant les Fribourgeoises. Pour la formation bavalaisane, la mission est désormais de corriger le tir d'ici le 9 avril. Après avoir été dominée dans tous les secteurs de jeu, les axes de progression ne manquent pas. D'autant plus que les protégés de José González Dantas ont déjà subi la loi des elfes à 3 reprises cette saison. Comment inverser la tendance dans 10 jours? La réponse de la coach assistante du BBC Trois Torrents, Katia Clément.
Il y a 2 matchs où on ne supporte pas le défi physique et du coup on recule dans les contacts et puis on ne joue pas ensemble, ce qui explique 30 points d'écart. Et puis quand on joue ensemble et qu'on se passe la balle, on a un meilleur rendement. C'est ces détails-là qu'il va falloir régler, parce que si on se laisse marcher dessus comme ça, la finale ça va être compliqué. Par contre, si on veut être compétitif, on peut l'être, mais il va falloir changer l'attitude.
Des propos recueillis par Loïs Salin. À noter qu'avant cette finale de la Coupe de Suisse féminine, un derby valaisan attend le BBC Trois Torrents, championnat samedi, contre Elios. Et on termine avec du hockey sur glace. Le HC Sierre sera bel et bien entraîné par Yves Sarraud la saison prochaine. Annoncé depuis plusieurs semaines sur le banc de la formation valaisanne de Swiss League, le coach canadien succède à son compatriote Danny Gélinas. L'ancien joueur du CP Bern arrive en provenance de Langnau, où il assurait l'intérim depuis le mois de janvier. Il s'est engagé pour 2 ans avec le club sierrois.
L'actu en continu, radiochablais.ca.